Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co, quel plaisir de vous retrouver. On va être là 31 jours avec vous cette année puisque le Ramadan commence demain. Tous les soirs, l'imam Abdelali Mamoun vous donne rendez-vous pour cette émission. Et vous le savez, c'est une émission unique puisque tous les soirs, l'imam Abdelali Mamoun eh bien, fait l'ADN en direct sur Beurre FM. Comment ça va, imam ?
Assalamu alaikum. Bonjour à toi, Philippe, et bien sûr à toutes nos auditrices et auditeurs qui vont être, inch'Allah, fidèles avec nous pendant tout ce mois de béni du Ramadan. D'abord, je commence par vous souhaiter un bon Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd wa Karim li jami'il muslimin wa sa'imin fi masharik al-ard wa magharibha. Atamanna lakum shahran mali'an bil khayr wa at-tawfiq wa al-hidayati wa as-sa'adati ya rabb al-alamin. Donc je souhaite à tout un chacun que de vivre ce mois béni dans la bénédiction divine, bien sûr, dans le bonheur, la convivialité, la fraternité, la solidarité. Car c'est par excellence ce mois béni qui est le mois de la solidarité, et notamment avec tous ceux qui nous entourent. C'est le mois de la sociabilité, c'est le mois où est-ce qu'on s'ouvre aux autres et on ouvre notre cœur au Créateur ainsi qu'à ses créatures pour montrer de la compassion et de l'abnégation. Voilà.
Ah, allez, tiens.
Non, mais commence par tousser.
Voilà. Eh ben non, c'est parce que j'ai ouvert les fenêtres, Imam Abdelali.
Ouais,
c'est
pour ça. Tu m'as fait un coup de froid, Philippe.
Ben oui, mais parce qu'il fait froid et qu'on aère en grand, justement, puisqu'on est en, c'est le deuxième Ramadan qu'on vit avec cette pandémie, hein, Imam Abdelali. Ramadan confiné, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de tarawih cette année non plus.
Il n'y aura pas dans les mosquées, tu veux dire.
Oui.
Alors, je rappelle que le tarawih, normalement, ce n'est pas une prière qui se fait à la maison, à la mosquée, mais une prière qui, en principe, à l'époque du prophète, se faisait à la maison. Donc, il y aura tarawih, sauf qu'il ne sera pas collectif à la mosquée. Il pourra se faire, inshallah, individuellement à la maison. Donc, pour cela, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout un chacun, c'est de prendre son courage dans les bras, c'est-à-dire d'essayer de décider, de prendre la résolution, d'ouvrir un Coran, si vous ne mémorisez pas le Coran, et de faire la prière avec un Coran et de lire le Coran. Sinon, vous le faites avec quelques petites rak'at, avec quelques petites sourates, et vous priez 8 unités, donc 4 fois 2, donc 2, 2, 2, 2, et ensuite vous faites Shfa'il Utr. Donc vous terminez votre prière du soir avec Shfa'il Utr. Je rappelle que il y a énormément de bienfaits.
Après, qu'est-ce que ça veut dire?
Comment?
Terminer avec ce que vous avez dit.
Shfa'il Utr, ça veut dire 2 unités et 1 unité. Shfa'il, ça veut dire la prière de duel, c'est-à-dire la prière couple, voilà, Shfa'il.
Par deux. Donc,
par deux, ouais, donc deux. Ouais, ouais. Et Utr, ça veut dire impair, celle qui est impair, qui se fait seule, qui parachève la prière du soir. Donc vous priez 8 rak'at, tout seul, ou en famille, ou entre amis, mais attention, respectez les règles, les gestes barrières, ne pas trop le faire avec trop de monde, donc limiter à 4-5 personnes maximum. Pour respecter justement ce confinement et donc voilà, et vous pouvez donc prier chez vous sans que vous ayez besoin de le faire à la mosquée. Je répète que le fait que ça se fait à la mosquée, c'est une pratique nouvelle, innovée, pas détestablement, mais au contraire appréciablement par le calife Omar al-Khattab, parce que vous avez des innovations appréciables et d'autres qui sont, Philippe,
comme on dit, détestable.
Donc voilà, en effet, Philippe, il y en a qui sont détestables, bien sûr, parce que quand on invente un truc qui n'est pas de la religion, oui. Mais là, en l'occurrence, le calife Omar a cherché à pratiquer l'esprit, puisqu'il savait qu'il y avait des nouveaux convertis qui ne mémorisaient pas le Coran. Et pour leur faciliter les choses, il a demandé à Ubay ibn Ka'b de se mettre devant et de diriger la prière. Et c'est ce qu'il a fait. Et depuis ce jour-là, les gens pratiquent Tarawih selon la sunna des califes. Donc sunnat al-khulafa ar-rashidin, comme nous l'a recommandé le prophète alayhi sallam, de suivre la sunna des califes. Donc la sunna du calife est la même que celle du prophète, sauf que parfois il y a l'esprit, comme par exemple le deuxième adhan, Philippe. Tu sais que le jumu'ah, la prière du vendredi, depuis le calife Uthman, il n'y en avait qu'un seul, c'est Uthman qui a ajouté un deuxième. Voilà, donc il y a des innovations appréciables qui avaient pour visée de donner le temps aux gens de se rappeler qu'il y a la jumu'ah qui va arriver. donc de se préparer, de faire leurs ablutions. Et ensuite, le deuxième adhan, quand les musulmans sont dans la mosquée, pour se taire et écouter le prêche de l'imam. Donc deux adhans. Un adhan pour les appeler, pour les faire venir, pour se préparer et venir, une demi-heure entre les deux environ. Et ensuite, le adhan qui fait taire les fidèles dans la mosquée pour que l'imam assure son sermon et sa khutbah. Voilà, donc les innovations, ça a toujours existé à l'époque des califs. Il y a énormément d'innovations, mais elles ne sont pas tous détestables. Du moins, je dirais même qu'il n'y en a pas du tout de détestables, parce que les califs ne font rien de détestable, ne font que des choses qui sont appréciables. Mais ceux qui sont venus après, malheureusement, ont parfois inventé des choses qui ne font pas partie de la religion et que l'on peut considérer comme étant des choses qui sont des innovations détestables. J'en citerai un, par exemple.
Ouais.
Un pseudo-prophète qui est venu au 19e siècle, qui s'appelle Ghulam Mirza, qui a décrété qu'il était prophète. Il a dit, moi je suis le prophète après Mohammed. Voilà, c'est une innovation détestable, puisque le prophète Mohammed est le sceau des prophètes. Il n'y a personne qui peut prétendre être prophète. Donc les Ahmadites, qu'on les appelle la secte des Ahmadites, ont innové une innovation détestable que les musulmans, dans leur grande majorité, ne suivent pas. On respecte, hein. Il y en a en France des Ahmadites, ils ont même un siège dans la banlieue parisienne. Mais voilà, on les respecte comme on respecte les chrétiens, mais ce ne sont pas des musulmans. On ne peut pas les mettre dans la catégorie des musulmans, puisqu'ils ne suivent pas, ils ne considèrent pas que Mohammed est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et donc, Tarawih à la maison, le prophète dit dans un hadith, « Man qama Ramadan », celui qui prie les nuits du Ramadan, « imanan wahtisaban », motivé par la foi, « wahtisaban », et motivé par l'espoir d'une récompense auprès de Dieu, pas auprès des gens, attention, il ne s'agit pas de contrepartie ou être intéressé par une récompense d'ici-bas, mais là, par une récompense dans l'au-delà, Dieu dit, le prophète dit, Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi, et lui sera absous tous ses péchés qu'il aura pu commettre avant ce mois. Donc c'est un mois de la purification de ses péchés par la prière du soir et bien entendu par le jeûne aussi, puisque le prophète dit encore une fois en utilisant pratiquement les mêmes expressions, il dira wa man sama ramadan imanan wa ihtisaban rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bon, Philippe, est-ce que tu savais qui est le premier homme à avoir jeûné?
Le premier homme, ouais. Mais jeûner en vrai.
Oui, jeûner. Jeûner que... du matin de l'aube jusqu'au coucher du soleil, selon les références de l'islam.
Oui, selon les références de l'islam, parce que ouais, le jeûne est antérieur, la pratique du jeûne est antérieure à l'islam, de toute façon. Alors, je dirais que c'est Ibrahim.
T'as bien essayé. C'est encore plus loin dans le passé.
Non, c'est pas ça.
Allez, vas-y, va plus loin. Plus, tu prends ta machine dans le voyager, tu pars dans le passé encore.
Un indice.
Plus tard.
Donnez-moi un indice. Ouais, donnez-moi un indice.
Allez, alors je viens de montrer ma gorge. Je viens de montrer ma gorge à Philippe.
Allez-y, je donne ma langue au chat.
Attends, qu'est-ce qu'il y a là?
La glotte.
Non, ici, là.
La barbe?
Non, le truc qu'il y a là, que tout le monde appelle là.
Le baladur.
La pomme d'Adam, Philippe.
Ah oui, Philippe. Adam. Yanis, si tu me souffle-moi dans le casque.
Yanis, alors, qu'est-ce que tu fais?
Non, lundi, c'était bon.
C'est quoi, là, ici, là, la pomme d'Adam? Chez les hommes, ils ont tous la pomme d'Adam, là, la petite bosse, là.
Je sais que c'était le premier des croyants, mais je savais pas que c'était le premier homme, mais je savais pas que c'était
C'était le premier prophète, c'est le premier jeune homme. Il est rapporté dans un hadith. Awwalu man sama, kana Adam alayhi salam, alladhi sama thalathati ayyam min kulli shahrin. Hadith rapporté par Al-Khatib, fi Al-Amali, wa Ibn Asakir, an Ibn Mas'ud, marfou'an. Selon un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, où le prophète dit que le premier homme à avoir jeûner, c'est Adam et qui jeûnait 3 jours par mois. Il jeûnait obligatoirement, c'était sa charia à lui. Il était obligé de jeûner 3 jours. Donc les fameuses 3 jours de Ayyam al-Bid, les pleines lunes, c'est une sunna qui date depuis Adam. Voilà, mashallah. Donc voilà l'histoire de ce jeûne qui a débuté à l'époque depuis Adam. Et il commençait dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc c'était la même chose. Il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il ne consommait pas des relations. Alors tout ça, ça s'est fait sur terre, hein, pas quand il était au paradis, bien sûr. Le paradis n'avait pas de prière à faire, ni rien, ni aucune contrainte, ni aucune adoration à accomplir. Mais le jeûne en tant que jeûne, je parle pas de jeûne du Ramadan, de jeûner, Parce qu'attention, il y a une erreur que beaucoup les gens disent, c'est dire faire le ramadan. Je fais pas le ramadan, c'est jeûner. Le mois qui s'appelle ramadan. Ramadan, c'est pas l'acte de jeûner. Ramadan, c'est le nom d'un mois. Comme on a le mois de Sha'ban avant Ramadan, on a le mois de Shawwal après Ramadan, on a Dhul Qi'da, Dhul Hijja, Muharram, et ainsi de suite. Donc tous ces mois, ce sont des noms de mois, et Ramadan, c'est le nom d'un mois. Donc Ramadan, on le jeûne ou on le jeûne pas, mais on dit pas faire le Ramadan, on dit jeûner, donc s'abstenir de manger, de boire, de consommer ou de fumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ça s'appelle jeûner. Et on jeûne pendant l'année des jeûnes surérogatoires, tels que le jour de Arafat, tel que le jour de Ashura, et le jour, un jour avant et un jour, ou un jour après. On jeûne aussi trois jours dans le mois, les jours de pleine lune. On jeûne aussi le lundi, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui ont jeûné, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, moi, j'ai l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Est-ce que je peux jeûner aujourd'hui? J'aurais dit oui. Par contre, si vous n'aviez pas
l'habitude... Alors, ça vient d'où, justement, le jeûne des lundis et jeudi, Imam
Abdelali? Le prophète dit que c'est le lundi et le jeudi que les actes des gens, les actions des gens, sont exposées devant Dieu. Donc, les anges exposent les actes de chacun d'entre nous quand ils présentent leurs actions devant Dieu, en disant, puisque toi, tu as des anges autour de toi qui écrit. Dieu, dans le Coran, il dit, wa inna alaykum la hafidhin, vous avez des protecteurs, anges, des anges protecteurs, kiraman katibin, noblement missionnés à écrire ce que vous faites. Et ce qui est écrit dans ce que vous dites et ce que vous faites est exposé à Dieu tous les lundis et le jeudi. Et le prophète dit ensuite, wa uhibbu an yu'arada amali wa ana sa'im. Et j'aime présenter mes bonnes actions, parce qu'il n'en faisait que des bonnes, lui, alors que je suis en état de jeûne. Donc, quelque chose qui lui rapporte encore plus à chaque fois, où les anges sont obligés de présenter, sans s'arrêter, l'action du jeûne du prophète, alayhi salam. Et donc, c'est pour cela qu'il jeûnait le lundi et le jeudi. Et il y a même un autre argument, c'est qu'il, quand on lui a posé la question, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, c'est le jour où je suis né. Et c'est le jour, donc c'est la preuve que le maoulid, le fêter, commémorer la naissance du prophète, même une fois par semaine en jeûnant, puisqu'on commémore la naissance du prophète lui-même, remercie Dieu de lui avoir donné la vie et l'existence, il le faisait en jeûnant le lundi. Et donc, il est bien de jeûner le lundi et le jeudi, comme le prophète nous l'a recommandé.
Alors, Imam Abdelali, ce soir, c'est la première nuit du Ramadan. Quelles sont les vertus de cette nuit?
Ah, mashallah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette nuit qui est extraordinaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith authentique, quand vient la première nuit du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et ne se ferment plus, dit le prophète. Tuftahu abwaabul janna wa la yughlaq min hababan. Aucune porte ne se referme jusqu'à la fin du Ramadan. Wa tughlaq abwaabun niran, et les portes de l'enfer se ferment et aucune porte ne s'ouvre, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit ensuite que les démons qui vous encouragent et qui vous tourmentent, qui vous cassent la tête et qui vous poussent à faire le mal sont eux ce mois-ci enchaînés et qui donc sont inactifs. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment ils font les gens quand même? Il y en a qui font quand même des bêtises pendant le Ramadan.
Car il devrait pas y avoir de péché pendant tout ce mois, en fait.
Non, c'est faux, parce que il n'y a pas que les djinns qui sont des démons, il y a aussi des humains. Eh oui, mais les humains, ils sont pas enchaînés. Les humains qui font du mal, qui tourmentent, qui détournent, qui découragent, qui dévient les gens en leur donnant des mauvais conseils, ça existe aussi, Philippe. Et Dieu le même, dans le tout dernier verset du Coran, il le dit. Tout dernier verset de la sourate 114 du Coran, il dit, oh, je demande protection auprès du Seigneur des gens. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Des démons, qu'ils soient humains ou qu'ils soient djinns, de la race des djinns, de la race des djinns, ou de la race des hommes. Il dit min al jinnati wan nas. Donc chaque musulman doit demander protection auprès de son Seigneur des tourments ou du tourmenteur, de celui qui vient insuffler, il a dit waswisu fi sudurin nas, dans ta poitrine, mais qui est en même temps furtif, al khannas, al waswas al khannas, il a dit waswisu fi sudurin nas, qu'il fasse partie des humains ou des djinns ou des humains. Min al-jinnati wa an-nas. Donc ça montre bien que dans ce verset-là, il existe des gens qui te souhaitent le mal, qui te souhaitent l'égarement, qui te souhaitent la déviance, et qui ne sont pas seulement des djinns, mais aussi des humains. Donc il y a l'âme passionnelle qui peut aussi te pousser à faire le mal. C'est le pire de tes ennemis.
Mais ce qui veut dire, Imam Abdelali, que si on fait du mal, on peut s'en prendre qu'à soi-même.
Pendant le Ramadan, oui.
C'est ça que ça
on
veut dire.
On peut pas dire, ah ouais, voilà, c'est
on
un
peut,
djinn.
On peut pas se décharger
voilà,
sur...
en disant, il y a un djinn qui m'a embrouillé le cerveau. Non, tu peux pas dire ça. C'est ton âme passionnelle, c'est toi-même qui as suivi.
Mais attention. Comment vous l'appelez, l'âme passionnelle?
Al-Nafs al-Amara, al-Nafs, al-Nafs, c'est le Nafs. Le Nafs, ça veut dire l'âme passionnelle, celle qui te pousse à te laisser prendre par tes passions, par tes envies, par tes, on va dire, tes shahawat, comme on dit. Les shahawat, ça veut dire les pulsions, voilà, les pulsions animales. Shahawat, ça veut dire pulsion animale. Par exemple, quelqu'un qui a des rapports hors mariage, il est poussé par des pulsions animales. Quelqu'un qui boit de l'alcool, il est poussé par des pulsions animales. Donc celui qui se laisse emporter par des pulsions dont il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas, il ne jugule pas, eh bien, il est pris par son âme passionnelle pendant ce mois béni du Ramadan. Et donc c'est tout le travail qui devra être fait pour y arriver, Inch'Allah.
Ramadan.
Juguler son âme passionnelle.
Enko, Imam Abdelali, cette émission... C'est la vôtre, hein, vous qui nous écoutez, vous savez que vous pouvez interroger l'imam Abdelali Mamoun qui répond à vos questions 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
Ramadan Enko revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, Imam Abdelali Mamoun, on remercie comme tous les ans votre épouse qui nous laisse notre imam pendant 31 jours d'affilée.
31, c'est vrai.
Même 32, parce qu'on a commencé hier, Imam Abdelali.
Ouais,
32 jours, vous êtes là.
Non, mais on va dire avec le ftour, parce que ce qui est le plus important, le moment solennel dans une famille, c'est d'être en famille au moment de la rupture. Et bon, là, on peut dire qu'il y aura 30 jours de jeûne cette année, puisque nous allons rompre le jeûne. Dernier jour, ça sera le 12 mai. Le 12 mai sera le dernier jour, ça sera un mercredi. Mercredi 12 mai pour que l'Eid soit le jeudi 13 mai prochain, Inch'Allah. Donc voilà ce qui vous attend. Du jeûne jusqu'au 12 inclus.
Mais
voilà.
Tranquille, mais c'est magnifique.
30 jours, Mach'Allah.
Et chaque jour, tranquille.
Et Philippe me dit, ouais, moi je veux 29 jours, il veut pas.
Non, moi j'avais demandé 29
celui
jours.
Qui jeûne un jour du Ramadan.
Oui.
Mais tu peux pas imaginer la récompense. C'est extraordinaire.
J'ai essayé de gratter. Je dis, vous avez des relations. Je suis allé voir l'imam. J'ai dit, est-ce que vous pouvez pas faire qu'on ait 29 jours cette
année ? Il attendait le pot de vin. Il a pas reçu le pot de vin.
L'imam.
Ouais, bah oui, l'imam, bien sûr. Toujours. Oui, voilà, c'est ça.
Bon, beaucoup de nouveaux rendez-vous. Tout à l'heure, nous
irons. T'as rien payé. Pas de dérogation.
Bah voilà, c'est la crise.
C'est la crise. C'est la dèche.
On rejoindra Kamel Chekat tout à l'heure en direct depuis Alger, puisque c'est ce soir la nuit du doute à Alger, hein, puisque c'est 29 Chaban à Alger, et donc ils seront, si eux commencent le mois de Ramadan demain
ou après-demain
ou mercredi.
C'est vrai qu'il y a effectivement des pays qui ne commenceront le jeûne que mercredi, ça c'est vrai. Mais bon, j'espère que tout le monde va être consensuel pour débuter demain. J'espère en tout cas. En tout cas, si c'est le cas, tant pis. Si on n'est pas d'accord sur sur un jour, mais au moins on est d'accord sur au moins 29 jours, puisque le lendemain on va tous jeûner, et on est bien d'accord que même après c'est bien des jours et des jours que nous jeûnons tous ensemble à travers le monde, donc il n'y a pas de souci pour ce premier ou ce dernier jour du mois du Ramadan. Donc moi Philippe, j'avais envie de faire un petit cadeau à tous nos auditeurs pour débuter ce mois béni du Ramadan, c'est d'entamer le format que nous allons avoir pendant ce mois béni du Ramadan, qui est qu'à 7h30 à 19h30.
Mais vous avez juste 15 minutes d'avance.
Ah, j'ai 15 minutes d'avance, là, c'est vrai?
Ouais, mais non. J'ai 15 minutes. Ben non, vous avez 15 minutes d'avance.
Il n'est pas 7h30, là? Il est bien 7h30.
Hein. Ben non.
Ben d'accord, je dis des bêtises.
Non, là, vous êtes.
Moi, je te laisse.
Vous êtes à l'heure de votre voiture.
Non, ben alors, j'ai précédé.
Parce que vous ferez une lecture du Coran, et tous les soirs, nous aurons un grand
Quelques minutes.
Voilà, nous aurons un grand récitateur tous les soirs.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi le premier.
Voilà, les plus belles voix de France qui vont venir se succéder et qui réciteront le Coran en
toujours
direct.
Toujours à 19h30, Inch'Allah. Ou du moins après la pause.
Après la courte pause de 19h30.
Courte.
Imam Abdelali, j'aimerais qu'on parle de...
des pavés d'une demi-heure. Je t'écoute, Philippe, allez.
Vous êtes gentil.
Oui, parce qu'il y a des encarts, ils sont superbes. Des encarts publicitaires, machallah. Mais c'est bien, ça fait gagner de la vie à Beurre FM. Au moins, ça évite qu'on ait besoin de... Voilà, tout est gratuit, là. C'est des professeurs, des imams, des intervenants, c'est toute une équipe technique, c'est plein de gens. Il faut bien les payer, donc on est obligé de mettre des... Donc, il faut comprendre que pourquoi il y a des publicités, c'est pour ça. Hein. Voilà.
J'aimerais qu'on parle de la NIA. Et de ce concept de la NIA. Alors, qu'est-ce que c'est que la NIA, Imam?
La NIA se traduit en français par intention, puisque tout acte d'adoration doit être précédé, comme condition de validité un shart ou sahatu shart sahat as-siyam ou shart sahat as-salat ou shart sahha, ce qu'on appelle la condition de validité d'un acte obligatoire, que ce soit la prière, le jeûne, la zakat, etc., c'est d'y associer une intention. Donc parce que très bien, moi je dis je vais jeûner avec l'intention de maigrir. J'ai jeûné pour l'intention de guérir d'une maladie qui ne, dont le, la thérapie c'est de jeûner. Bien entendu, il ne sera pas en acte d'adoration celui-là. Donc il faut qu'il ait l'intention de d'adorer Dieu et de pratiquer le jeûne du Ramadan conformément à la volonté divine, conformément au verset que je vais réciter tout à l'heure, où Dieu prescrit le jeûne à la communauté des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. D'accord. Oh vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit au peuple avant vous, c'est-à-dire aux communautés avant vous. Voilà.
Donc la niya est une obligation. Donc cette intention.
L'intention, elle débute ce soir. On doit l'avoir ce soir, au moment du coucher du soleil. Vous devez tous avoir l'intention de jeûner. Il est très important d'être sain d'esprit ce soir, après le coucher du soleil, car c'est à ce moment-là que l'intention est valable. On peut pas, par exemple, avoir l'intention maintenant. Il faut que ce soit au coucher du soleil, au moment, la première nuit du Ramadan. On a une intention. Maintenant, il y a divergence entre les savants. Est-ce que chaque nuit, je dois avoir encore cette intention ?
Certains disent, renouveler chaque jour,
chaque voilà. Nuit, ouais. Il y en a qui disent que oui, et il y en a qui disent non, c'est pas obligé. Si vous avez l'intention au début du Ramadan, la première nuit du Ramadan, ça suffit. Il n'y a pas besoin. Mais vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir l'intention toutes les nuits ? Bah, ça sert à. Imaginons quelqu'un s'endort avant le coucher du soleil. Par exemple, le troisième, quatrième, cinquième jour, dixième jour du Ramadan, un soir, je dors avant le coucher du soleil. Je m'endors. Et je ne me réveille qu'après le Fajr. Est-ce que pendant la nuit, j'ai eu la niya ? Ben non, puisque j'étais endormi. Donc, est-ce que la journée qui va suivre, j'ai le droit de la jeûner ? Est-ce que je peux la considérer comme un jour du jeûne du Ramadan ? Eh bien, ceux qui pensent que on doit avoir l'intention, la niya, tous les jours, eh bien, cette journée n'est pas valable. Il faudra la rattraper, puisque la condition de validité de cette journée-là n'est pas remplie, puisque tu n'as pas fait la niya qui précède le jeûne. Ceux qui disent non, l'intention, c'est au début du mois. Et donc, quelle que soit l'intention que tu auras ou que tu n'auras pas pendant le mois du Ramadan, à partir du moment où tu respectes le fait de t'abstenir de boire, de manger, de fumer, de consommer des relations intimes, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu seras donc ton jeûne sera valide, sera accepté et on va dire approuvé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en arabe sahih, siyam ou kasahih. D'accord. Ça c'est pour ceux qui pensent que la niya est obligatoire qu'au début du mois du Ramadan. Je rappelle que le musulman doit aussi faire ses prières, parce que si tu dors avant le maghreb, ça veut dire que le maghreb il est parti, et l'isha il est parti, subh il est parti. Donc ça fait quand même non, on est censé à la fois être présent. C'est pour ça que Dieu dans le Coran il dit dans le verset 185. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, celui qui est présent. Donc il faut vivre ce jeûne de manière présente. Et la meilleure manière d'être présent, c'est de respecter les engagements, les rencontres, les rendez-vous que tu as avec Dieu cinq fois par jour, que sont les prières. Donc tu rencontres le Seigneur dans ta prière, cinq fois par jour, au moment du coucher du soleil, tu pries. Le soir, tu as encore une autre prière après le crépuscule. Le matin, à l'aube, tu as le fajr. Après le zénith, quand dans la journée d'Dhor, tu as la prière de Dhor, et après dans l'après-midi, quand ton ombre est équivalent à la longueur de toi-même, ou doublement selon l'école Hanafite ou l'école les autres écoles. Bon, ça c'est une différence sur la longueur de l'ombre de la personne qui définit le début de l'heure de l'Asr, parce qu'il y a divergence, puisque nous on là aujourd'hui on a un calendrier, on suit Muslim Pro, on suit le calendrier de la mosquée de Paris ou celui du boucher qui nous a donné. Mais il faut savoir quelle est l'origine astronomique. C'est la position du soleil dans le ciel. Si la position du ciel fait que tu as la longueur
du soleil, la position du soleil.
La position du soleil dans le ciel, voilà. Si la position fait que ton ombre est à la taille de toi-même, ou par exemple, un exemple très simple, tu prends une règle de 10 cm, tu la poses de manière verticale, et tu mesures la longueur de son ombre. Si la règle fait 10 cm, alors qu'elle-même fait 10 cm, eh ben, c'est l'heure de l'Asr, tout simplement. Alors, il y a l'école Hanafite qui dit non, c'est le double. C'est-à-dire qu'il faut que l'ombre soit 20 cm pour que ça soit l'heure de l'Asr. Ça, c'est encore des petites divergences qui entre les écoles juridiques, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on a un calendrier qui est fixe. Alhamdoulilah, chacun.
Même si c'est le boucher qui vous l'a donné, c'est valable.
C'est valable, puisque lui, souvent, il a été
profité. Profitez du calendrier.
Voilà, profitez de celui du boucher, mais achetez de la viande chez lui quand même, parce qu'il est gentil, mais bon, faut quand même acheter de la viande.
On est allé chercher dans le 12e,
si
le calendrier.
Halal, hein, si elle est halal. Hein. Et il y a quoi tu m'as... Comment ça s'appelle, Fabien ouais. Le boucher là, le charcutier là qui fait de la bonne charcuterie.
La ferme des Vosges.
La ferme des Vosges, voilà. Je voudrais faire de la publicité pour la ferme des Vosges. Mashallah. Et qui fait un travail extraordinaire. Qualitatif, bio, c'est ça, et halal à 100%. C'est ça ?
C'est ça.
Je me suis pas trompé, tu vois. Alors.
Bon.
Non, comment, il y a des produits intéressants.
Comment vous avez appelé Julien ?
Julien, j'ai dit Fabien.
Fabien.
Julien.
Fabien, c'est la place du colonel.
Oui, elle connaît Fabien. Oh, mais c'est un prénom, Fabien, aussi.
Bon. Est-ce que, Imam Abdelali, il y a des invocations qui sont propres au mois du Ramadan?
Alors, déjà, il faut savoir que dans la continuité de ce qui se passe le soir, la première nuit du Ramadan, c'est qu'il y a déjà une interpellation. Il y a des anges dans le ciel qui crient partout dans le ciel, partout, partout, sur toute la planète, au moment de la nuit, de la première nuit du Ramadan, et qui crient... « Oh, celui qui veut le bien, approche-toi. Allez, avance. Hein, »« Ya bari al-khayri akbil, devance-toi, mets-toi en avant. » Akbil, ça veut dire « viens devant, ça, mais, voilà, passe-toi devant. »« Wa bari al-sharri akser, oh, celui qui cherche à faire le mal, recule et abstiens-toi. » Il y a toute la nuit du Ramadan des, comme on pourrait dire, des commerciaux, des publicitaires qui prévoient cette période de promotion divine. Parce que j'appelle ça comme une promotion, comme une période de solde. Et quand tu vas dans un magasin, on te dit, monsieur, si vous achetez un produit, eh bien, le magasin vous offre un deuxième gratuit. C'est bien ça. Ou il vous donne un deuxième gratuit. Eh bien, sachez que toutes les actions que vous allez faire quand vous allez acheter à Dieu un produit, Allah Azza wa Jal, il vous en donne combien, Philippe ?
Deux.
70.
Ah mince, donc c'est
70.
C'est pire que les soldes.
Alors là, aucun magasin qui peut rivaliser avec Dieu. Rabbil Alamin dit, man adda fiha faridatan, faka'annama adda sab'ina faridatan fima siwa. C'est pas moi qui parle, c'est le prophète. Celui qui fait une bonne action, obligatoire, pendant le mois béni du Ramadan, Dieu le récompensera de 70 fois la valeur de son acte d'adoration. Donc tu montres bien combien cette période de promotion divine, cette fraîcheur de spiritualité, cette période de bénédiction divine, de générosité d'Allah Azza wa Jal est extraordinaire, où l'action est décuplée par 70 fois sa valeur. Donc c'est t'achètes un produit, tu fais une prière, 70.
Alors qu'est-ce qui rentre dans la catégorie des bonnes actions, Imam Abdelali ?
Tout ce qui est considéré dans le cœur comme étant bon. De la bonté pieuse. Le prophète dit dans un hadith, al-birru matma'anna ilayhi an-nafs. La bonté pieuse, c'est ce dont le cœur est apaisé quand tu l'as fait. Et le mal, l'ithm qui veut dire le péché, c'est dont le cœur est mouvementé, est bouleversé, il se sent pas bien. Wal-ithmu ma haka fi sadr, wa taraddada fi an-nafs. Tu te dis, pourquoi je fais ça, pourquoi? L'état du péché te met dans une état psychologique inconfortable, alors que la bonté pieuse te met dans un état psychologique hyper confortable. Donc le birr dit le prophète matma'anna ilayhi an-nafs, c'est ce dont l'âme est apaisée grâce au moment où tu l'as fait. Donc c'est très simple. Interroge ton cœur dans ce que tu fais. Sourire à un pauvre, sourire à un enfant, caresser un enfant, faire un câlin à un enfant. Je sais pas, mais je dis ça pour les enfants. Après, on y va aux adultes. Allez, bismillah, serrer la main de son frère, lui faire un beau sourire, lui faire un compliment, le prendre en stop, l'aider à transporter ses affaires, lui rendre service. J'en passe des meilleurs. Un personne âgée, tu l'ouvres la porte pour qu'il passe la porte, tu l'aides même, tu prends ses bagages, tu fais tout ce que tu fais dans la journée. Arrêtons de limiter de manière très réductrice. Allez, c'est la prière, le jeûne, l'invocation. Non, oui, d'accord, tout ça c'est bien. Mais tous tes moments de ta journée ne sont que bonté pieuse. Allez, je vais aller plus loin, Philippe. Tu prends une bouchée de pain avec de la sauce de la gamelle que ta femme t'a préparée. Tu la mets dans la bouche de ta femme. Allah, il te la marre comme une sadaqa. Allez, yallah, bismillah. Des relations intimes que tu vas avoir avec ta propre femme. Allez, c'est considéré comme une sadaqa. Tu prends ton enfant, tu la mets sur ton genou, tu prends un morceau de pain, je sais pas, et tu le mets dans la bouche de l'enfant, c'est une sadaqa. Toutes ces actions-là, que ton cœur, quand tu le fais, est apaisé, tu peux être certain que c'est un acte qui est, dont la récompense est décuplée jusqu'à 70 fois sa valeur pendant le mois du Ramadan. Inch'Allah.
Ramadan & Co, c'est la première et c'est demain le début du mois de Ramadan. Restez avec nous sur Beurre FM, des nouveaux rendez-vous, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, hein, puisque Imam Abdelali, il y a l'émission en direct sur Beurre FM et puis après vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ramadan & Co, c'est en direct jusqu'à ce soir, 20h30, hein, j'allais dire 21h30, non mais c'est 20h30 ce soir.
Ouais, 20h30.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Allez, tous les soirs, nous aurons une grande signature, imam Abdelali, qui viendra nous lire un verset du Coran, donc à partir de demain.
Oui, et puis la première signature, justement, de ce Coran.
C'est vous.
C'est moi qui vais la signer. Voilà,
c'est vous la grande signature.
C'est moi qui vais prendre mon stylo.
C'est que vous êtes la voix du
Parker,
Ramadan.
Un Waterman, tu te rappelles les Waterman?
Ouais, c'est ça existe stylo. Toujours, les Waterman. Ouais. Vous êtes la voix signature du Ramadan. Pour beaucoup de gens, vous êtes le chronomètre du Ramadan.
Eh ben, Inch'Allah, pourquoi pas? Avec toi, Philippe.
Ah non, c'est vous qui faites l'ADN. Donc, tout le monde.
C'est l'ADN, oui.
Tout le monde. Vous êtes la voix du Ramadan.
D'accord.
Alors, on commence par quel verset, Imam Abdelali, ce soir?
Eh ben, le verset qui va nous prescrire le jeûne du Ramadan et que l'on va essayer d'analyser. Mais pour une fois, on va faire une analyse psychologique du verset. Vous allez voir que c'est extraordinaire, mais très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans des considérations. Voilà. Donc, je récite d'abord le verset. Je rappelle que c'est un verset de Sourat al-Baqarah. Je rappelle que réciter Sourat al-Baqarah fait fuir les démons des demeures. Donc, ceux qui nous écoutent, mettez à fond, mais pas trop, hein, parce qu'il y a les voisins. Ça va chasser les demeures de vos maisons, Inch'Allah. On y va.
Mais c'est une longue sourate, hein, al-Baqarah.
Non, mais ça sera le verset 183, 184... 185, et c'est tout. Ce sera déjà pas mal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladhina min قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal prescrit le jeûne du Ramadan et dit à tous les croyants, ô vous qui êtes croyants, qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux gens, avez-vous, peut-être atteindrez-vous ainsi la piété. Quelques jours, dit Dieu dans le Coran, comptables que l'on peut compter, que l'on peut dénombrer, ma'adoudat, qui vient du mot adad, qui veut dire le nombre. Et il dit ensuite, faman kana minkum, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, il lui est possible d'ajourner son jeûne à une date ultérieure. Il dit ensuite, Rabbil Alamin, ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner, qui n'ont pas la capacité de jeûner, peuvent, bien entendu, verser une fidya qu'il donnera à un pauvre ou à un misérable. Et que celui qui accomplit une bonne action surérogatoire, cela sera meilleur pour lui. Et sachez que si vous jeûnez, cela sera meilleur pour vous si vous le savez. Le mois du Ramadan, c'est le mois, Dieu dit dans le Coran, dans lequel a été révélé la parole de Dieu, le Coran, comme une guidance et un éclaircissement de cette guidance et un discernement. Celui qui est présent ce mois devra le jeûner. Celui qui est présent, famen shahida minkum shahra, devra obligatoirement le jeûner. Ça, c'est le lem ici s'appelle lemul amr. C'est le lem de l'ordre, de l'injonction, qui veut dire jeûnez-le. Vous devrez le jeûner. Et que celui qui est malade ou en voyage pourra ajourner à une date ultérieure. Dieu veut pour vous la facilité, ne veut surtout pas pour vous la difficulté. Mais il dit ensuite, parachever la période de jeûne. Et il dit parachever à l'impératif, en utilisant toujours ce fameux lem. Wali tukmil, wali, qui veut dire terminer et parachever cette période de jeûne. Wali tukmil l'idda. Cette période, l'idda, c'est la période qui vient du mois adad, toujours le nombre de jours à jeûner, qui est jusqu'à la fin du mois. Et que vous chantiez la gloire et la grandeur de Dieu à la fin de ce mois béni du Ramadan, après avoir parachevé ce mois et avoir résisté, avoir tenu pendant tout ce mois, peut-être ainsi manifesterez-vous de la reconnaissance et un remerciement à votre Seigneur de vous avoir guidé pendant ce mois pour le jeûner. Dans ce verset, Philippe, quand on le relit, mais avec une manière plutôt psychologique, on constate que Rabbil Alamin, il est plein d'émotions. Il souffle le chaud et le froid. Il souffle la douceur et la rigueur et l'astreinte et la contrainte. Il est dès le début, il passe d'une manière de parler douce à rigoureuse. Douce, rigoureuse. Regarde, il dit quoi? Oh, vous les croyants, c'est doux de dire à quelqu'un que t'es croyant, c'est un compliment. Kutiba, il vous a été prescrit. Là, il est rigoureux. Mais comme il a été prescrit aux gens avant vous, c'est-à-dire qu'il cherche à relativiser pour dire, c'est pas une punition que pour vous. Je l'avais aussi prescrit aux gens avant vous. Donc, soyez apaisés. Voilà. Donc, il est en train d'essayer. La'allakum tattaqoun, afin peut-être que vous acquérirez la piété. Donc, il explique qu'il y a une visée derrière, que c'est pas juste une contrainte. Ensuite, il va encore dans la douceur, il dit Ayyaman ma'dudat, quelques jours, comptez, c'est-à-dire, c'est pas un truc éternel, une vitam. Donc il essaie de toujours de relativiser le nombre en disant que c'est pas beaucoup. Ce que je vous demande, c'est pas énorme. Ayyaman ma'dudat. Et là, encore plus loin, il va dans la douceur, il dit, par contre, celui qui n'est pas en mesure de jeûner, je ne vais pas imposer à tout un chacun que seulement celui qui a les moyens de le faire. S'il est malade ou en voyage, il pourra ajourner son jeûne à une date ultérieure. Et il utilise même le terme « minkum » parmi vous, encore une fois, pour dire qu'il est là, proche de nous, pour nous dire que parmi vous, eh bien, s'il y a des malades ou des personnes âgées, eh bien, ils peuvent l'ajourner à une date ultérieure. Et là, encore une fois, toujours dans la douceur, dans la progressivité de la législation, il dit, subhanahu wa ta'ala, وعلى الذين يطيقونه ceux qui ne peuvent pas le jeûner ce mois béni pourront remplacer parce qu'ils ont une maladie chronique, c'est-à-dire que même avec le temps ils ne pourront pas le jeûner, ils pourront remplacer ce jeûne et compenser ce jeûne par une fidya, c'est-à-dire cette fameuse compensation de d'un repas que l'on donne à un pauvre. ومن تطوع خيرا فهو خير لك, que celui qui prend l'initiative, tatawa, ça veut dire celui qui a cette détermination et à qui je demande de faire un acte de bonté pieuse, eh bien cela sera meilleur pour lui. Et que si vous savez que jeûner, ce serait, si vous le saviez quels étaient ses avantages, eh bien vous le ferez. Ensuite, là il est toujours dans la douceur. Mmh. Il dit ensuite, Shahru Ramadan, le mois béni du Ramadan, dans lequel a été révélée la parole de Dieu. Là encore, il est toujours dans la douceur, il est en train d'essayer d'expliquer aux gens que si je vous demande de jeûner ce mois, c'est parce que vous devez à Dieu de le remercier, d'être reconnaissant de vous avoir fait don de ce Coran qu'il a révélé pendant ce mois, dans lequel a été révélé comme une guidance et un discernement de ce qui est bien et mal. Celui, là, il a encore, il passe à la fermeté encore, il passe de la douceur à la fermeté, celui qui est présent ce mois, qu'il le jeûne. Ensuite, il repasse à la douceur. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut surtout pas la difficulté et la contrainte. Yuridullahu bikum al-yusra. Regardez, il passe de la contrainte, la douceur. Il revient dans la fermeté, il repart dans la douceur. Il est constamment, il alterne douceur et fermeté pour finalement réussir à convaincre les croyants progressivement d'accepter de jeûner ce mois béni du Ramadan. Et il dit à la fin avec fermeté, wali tukmilu al-iddah, qu'il parachève. Là il est ferme dans son injonction. Il est déterminé à imposer aux croyants de jeûner et jusqu'au bout leur jeûne du Ramadan. Wali tukmilu al-iddah, wali tukabbirullah, et que à la fin de ce mois, vous chantiez la gloire de Dieu et ainsi manifesterez-vous sa reconnaissance. Donc il est toujours dans ce verset-là. Et même à le verset d'après que j'ai pas récité, il est plein d'affection, il est plein de douceur comme une mère qui tient un enfant dans ses bras et qu'il dit, si tes serviteurs m'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis tout près d'eux. Je réponds à l'appel, j'exauce les prières de celui qui m'implore pendant ce mois de béni du Ramadan. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'ils répondent à mon appel, qu'ils croient en moi, peut-être ainsi seront-ils bien guidés. Donc là, il y a extraordinairement une alternance entre chaud et froid, douceur et rigueur, fermeté et affection. Voilà comment est Allah Azza wa Jalla quand il légifère. Il connaît l'homme, c'est pas un robot, c'est un être qui a des émotions, qui a des sentiments. Et il le prend par les sentiments, parfois dans la rigueur, dans la fermeté, parfois dans la douceur, où il le caresse doucement et gentiment. Donc voilà comment Rabbul Alamin, dans sa grande miséricorde, il a décrété et légiféré ce mois béni du Ramadan en alternant fermeté et douceur. Comment je voulais expliquer ce verset de manière un peu particulière, un peu innovante, un peu pertinente, pour expliquer que Rabbul Alamin, quand il s'adresse à nous, pour jeûner ce mois du Ramadan, il parle à des hommes qui ont un cœur, qui ont un foie, qui ont un kibda, comme on dit en arabe, qui ont un sang chaud, qui ont un sang froid, et qui sont parfois en mesure d'écouter Dieu quand il parle doucement, ou quand au contraire il est ferme avec eux.
Voilà. Dans un instant, Imam Abdelali, nous partirons à Alger, nous retrouverons Kamel Shekat qui nous accompagne tout ce mois de Ramadan. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent vous interroger, poser leurs questions en direct au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Le standard est à votre disposition et Ramadan & Co, c'est pour la première ce soir jusqu'à 20h30.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, je rappelle que vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Il y a une question qui est arrivée au standard, imam Abdelali, et je vous la pose. C'est est-ce que l'amende de 135 euros qu'on paye à la police, si on dépasse les 10 km ou qu'on sort de chez soi sans son attestation, c'est considéré comme une sadaqat ou pas?
Non. Le Coran est clair, il dit innama sadaqatu lil fuqara wal masakin.
Ça marche
pas. La sadaqa, c'est pour les pauvres et les misérables. Depuis quand l'État français est un État misérable?
Donc on n'a pas fois 70.
C'est toi qui l'as dit. T'as dit que Macron est misérable. Alors là, c'est toi qui vois.
Ah non, moi j'ai pas dit.
Moi j'ai pas dit.
Non, hein? je m'inquiète
parce que. Castex ou comment il s'appelle, Chiappa.
Non, faut commencer pas.
C'est les misérables. C'est elle, tu peux donner ça, Dara.
Donc non, c'est pas fois 70.
C'est une punition de l'État, une sanction. Ah, donc, puisque tu n'auras pas respecté le confinement, et si l'État a décidé de confiner les gens et de limiter leurs déplacements à 10 km, c'est pour éviter la propagation du virus. Donc, il faut respecter, c'est tout. Et donc, ils sont obligés d'imposer des sanctions pour ceux qui ne respectera pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont indisciplinés. Donc, c'est une sanction, tout simplement, une punition de l'État, et pas une sadaqa. Donc, restez chez vous. Voulez-vous promener, déplacez-vous autour de chez vous à 10 km, mais pas plus. Inch'Allah, voilà.
Voilà, faites attention à vous. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que souvent, parce que c'est le mois de Ramadan, les gens ont des tolérances qui s'accroissent.
Mais... Et soyez chez vous avant 19h, hein, parce que après 19h, là aussi, il y a ce qu'on appelle le couvre-feu. Hein. Il n'y a pas seulement que le confinement. Il y a le couvre-feu qui vous interdit. Donc cette année, il n'y aura pas de tarawih à la mosquée, il n'y aura pas de prière de l'Aïcha. Il n'y aura pas de Salat al-Maghrib aussi.
Et pas de Ftour Chalençon, comme le dit l'imam voilà. Abdelali Mamoun.
Puisque tu sais que la plupart des mosquées en France avaient l'habitude d'organiser des ruptures de jeûne dans les mosquées, notamment dans les annexes, dans les restaurants ou les salles à manger des mosquées, pour proposer aux nécessiteux, aux fidèles qui viennent prier à la mosquée de rompre le jeûne ensemble. Puisque le prophète dit, celui qui donne... un repas ou le moyen à un jeûneur de rompre son jeûne, il aura la récompense de celui à qui il aura donné le repas. T'as compris, Philippe? Et sans que ni l'un ni l'autre ne soit diminué du jeûne qu'il aura accompli. Sans que cela affecte, c'est-à-dire que, imaginons, je jeûne le Ramadan et toi tu me donnes de quoi rompre mon jeûne au moment de la rupture.
Ou je cuisine pour vous par exemple.
Eh bien tu auras ton jeûne à toi intégralement, j'aurai mon jeûne à moi intégralement et toi tu auras en plus mon jeûne à moi double en récompense pour m'avoir donné à manger au moment de la rupture. Donc c'est vrai que cette récompense là cette année ça va être compliqué de le respecter. Alors il y a une manière qui est très simple, faites un don aux associations qui proposent des repas de rupture de jeûne, qui vont distribuer cette nourriture avant l'heure du couvre-feu, donc ils vont la donner dans l'après-midi à 3h, à 4h, à 5h. Ces gens-là récupéreront leur repas et ils pourront au moment de la rupture réchauffer leur plat, ou si c'est un plat chaud, ou sinon si c'est un plat froid, eh ben, manger le don que vous aurez fait pour ces nécessiteux, vous aurez donc la récompense de leur jeûne. Donc c'est intéressant que d'être généreux pendant ce mois du Ramadan, puisque Dieu accorde la récompense doublement à celui qui fait don. Il aura son jeûne et celui à qui il a fait le don, voilà. De rompre le jeûne.
Et quand vous cuisinez pour toute votre famille, ben vous avez les récompenses
de tous les
jeûneurs.
Si c'est fait avec ton argent, bien sûr.
Non, et si c'est vous qui le faites.
Ah, si vous,
si vous cuisinez, si vous préparez par exemple.
Bien sûr.
C'est
madame,
pareil.
Madame, voilà. Elle prépare, elle a la récompense. Monsieur qui a acheté les commissions, il a la récompense. Les gamins qui ont donné un coup de main à maman, ils ont la récompense. Tout le monde a la récompense de tout le monde, finalement. Donc, finalement, dans une famille, celui qui jeûne, il a la récompense de tous les membres de sa famille. C'est formidable, Philippe.
Alors, dans un instant, on prendra vos questions à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000. Mais nous accueillons Kamel Chekat qui est avec nous. Kamel Chekat, chercheur en théologie et membre fondateur des Oulémas du Sahel. Kamel Chekat qui nous accompagne pendant tout le mois du Ramadan. Vous êtes le bienvenu, Kamel.
Salam alaikum. Très heureux de vous rejoindre.
Kamel.
Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. أستاذنا الفاضل المبجل المحترم المقدر البحر العلامة والقطب الرباني والغوث الصمداني. ما شاء الله عليك الشيخ كمال. والله, on est super ravis de t'avoir pendant ce mois béni du Ramadan.
Avec toutes ces éloges, je crois que j'ai pas du tout besoin de jeûner, quoi.
Ouais, t'en as pris pour tout le mois, là. Là, on va faire. Non, franchement, je pense que je dis, mashallah, Alec, tu es la lumière de Beurre FM pendant le mois, à tous les auditeurs de Beurre FM pendant ce mois béni du Ramadan. Et on va certainement profiter, avec beaucoup de pertinence et avec une vision constamment, renouvelée, et on va dire revivificatrice, moi, je dirais. Un revivificatrice de la foi et de la spiritualité, puisque tajdid al-iman daruri li kull muslim wa kull mu'min fi hayato. Chaque moment, le croyant est invité à renouveler sa foi. Et c'est ce que tu vas nous faire profiter pendant ce mois béni du Ramadan.
Enfin, puisse Dieu faire que nous soyons à la hauteur.
J'en suis certain.
Et du respect que nous portent les lumières qui nous écoutent. Parce qu'il y a des lumières, peut-être, il y a des gens qui sont porteurs peut-être de beaucoup plus de lumières que nous. Sauf que nul ne les connaît, c'est ça le problème. Oui, en tout cas.
Alors, Kamel, je vous interromps un instant, mais on sait que c'est ce soir la nuit du doute en Algérie. Est-ce que l'Algérie a annoncé le début du mois du Ramadan ou pas encore?
Bon, alors déjà, techniquement parlant, ils ne peuvent pas l'annoncer parce que quand on se fie à l'observation à l'œil nu, on est censé scruter le ciel quelques minutes avant le crépuscule. Et ce qu'on recherche, c'est une lumière faible, qui est celle normalement du croissant de lune, qui se cache normalement derrière une lumière qui est mille fois plus forte.
Et plus le soleil.
Importante, et qui est celle du soleil. Donc il faut avoir une très très bonne
activité. Mais c'est après le coucher du soleil, donc le disque solaire lui disparaît. L'intensité est beaucoup plus importante.
Ceux qui sont vraiment bien bien formés dans ce domaine regardent beaucoup plus juste avant le crépuscule.
Machin.
Et un peu après. Mais le problème, c'est que dans la majorité des temps, quand la conjonction se fait, si elle est au-dessous de la ligne d'horizon, vous êtes obligé de trouver un poste d'observation qui devrait se trouver au sud de l'équateur et non au nord, comme c'est le cas en ce qui nous concerne. Mmh. En tout cas, pour Alger aujourd'hui, le temps est super couvert, donc personne ne pourra, mais peut-être un peu dans le sud, et là encore, je ne sais pas.
Mais enfin. L'Algérie, est-ce que si un autre pays décrète, non pas selon le calcul, hein, je dis bien, mais selon une vision oculaire, avoir constaté, par exemple, leurs voisins tunisiens ou égyptiens ou saoudiens, constate la vision oculaire, yani vraiment رؤيه الهلال هل يمكن للحكومه الجزائريه والسلطات الدينيه في الجزائر les autorités religieuses peuvent décréter le début du Ramadan sur la base d'une vision qui a été constatée ailleurs?
Oui, absolument. Déjà, ça c'est l'avis générale des malékites.
Mm-hmm.
C'est ce qui est le
contraire aux chafirites.
Dans l'école malékite, oui. Contrairement aux chafirites, à l'imam chafiri qui parle d'irtilaf al-mapale. Mm-hmm.
C'est-à-dire les balades en
rouillato. Oui, les différences qu'il peut y avoir. Mais bon, techniquement parlant, il faut savoir que le décalage ne peut pas excéder les 16 heures de Jakarta à Dakar, ça n'est pas possible. Mmh. Mais bon, généralement, quand le temps est couvert, quand personne n'a pu faire d'observation, et surtout quand les calculs astronomiques ont déjà déterminé une date et qu'elle coïncide avec un pays qui dit avoir observé le croissant de lune, l'Algérie, d'habitude, elle se range du côté de ceux qui l'ont observé.
Mais ceux qui ont considéré le mois de Chaban plus tôt que d'autres, comme l'Algérie par exemple, qui ont considéré aujourd'hui qu'ils sont bien au 30e jour et non pas au 29e jour, ce soir, ils n'ont pas besoin de voir les Hilal, puisqu'ils, le mois ne peut pas avoir 31 jours.
Oui,
donc c'est forcément demain.
Ils ont procédé ce qu'on appelle l'île Tchèque, la nuit du doute, hier.
Oui.
Et bon, il faut savoir que du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on scrutait le ciel à chaque nouvelle lune. pour déterminer le mois, parce que les mois lunaires peuvent vous pouvez avoir 3-4 mois consécutivement avec 29 jours, ou bien le contraire avec 30 jours. C'est aléatoire. Donc, nous savons, d'après un hadith rapporté par Aïcha, que le messager de Dieu, alayhi salam, accordait beaucoup plus d'importance à l'observation du début du mois de Sha'ban qu'il n'en accordait à d'autres mois. Et c'est à partir de là qu'il pouvait justement, au cas où le ciel serait couvert, compléter à 30 jours le nombre de Sha'ban. Maintenant,
فَإِنْ رُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
ou bien faqduru lahu 30, pour ceux qui ont parlé du calcul astronomique. Parce que ne l'oublions pas, depuis le premier siècle de l'Égypte, si je prends en considération Mutarif ibn Abdullah ibn Shikhir, le second siècle de l'Égypte, si je prends en considération Ibn Suraj, l'imam Subki et beaucoup, beaucoup de grands membres de la théologie musulmane étaient d'avis que quiconque maîtrisait le calcul devait se fier au calcul et non à l'observation à l'œil nu. Donc il y a toujours eu une divergence entre les écoles. Et puis là, j'en profite pour dire à ceux qui sont récalcitrants ou farouchement opposés au calcul astronomique. Le calcul astronomique est très très fiable. Ça, nul ne peut le nier. Mais alors à ceux qui n'acceptent pas le calcul astronomique pour le mois de Ramadan, pourquoi l'acceptez-vous pour les prières quotidiennes que vous faites? Pourquoi vous vous fiez à votre montre et non à la position du soleil et à la mesure de votre ambre, etc. Et puis d'un autre côté, vous connaissez le hadith qui parle de l'antéchrist. Quand on a demandé au messager de Dieu, il a dit à l'ensemble de ses compagnons, l'antéchrist descendra et viendra parmi vous et demeurera parmi vous 40 jours. Un jour sera l'équivalent d'une année, un jour sera l'équivalent d'un mois, un troisième jour sera l'équivalent d'une semaine, et le reste de ces jours seront comme vos jours. Donc des jours de 24 heures. Et là, les compagnons ont posé la question, pour cette journée qui durera l'équivalent d'une année, c'est-à-dire une journée où le soleil et la lune feront ce qu'ils ont l'habitude de faire en 24 heures, le feront en 254 jours. Je parle de 254 jours parce que le prophète a toujours parlé en lunaire et non en lunisolaire ou en
c'est
solaire.
Pas 300, c'est pas 354
354.
C'est pas 354. Une année, je me disais.
C'est plutôt 300.
Oui. Moins 10.
Vous enlevez 11 jours.
D'accord.
Et donc, on lui demanda comment faire. Est-ce qu'on va faire 5 prières uniquement sur une durée de 354
d'un an,
jours
d'une année.
D'un an. Il a dit non.
Vous devez calculer.
Parce que cette année, elle va durer 24 heures par 354. Vous imaginez. Et donc, imaginez, moi je crois, c'est un hadith qui est authentique, donc j'y crois en tant que musulman. Et à partir de là, donc,
ça c'est un des signes de la fin des temps, hein. On précise aux auditeurs, on parle de
l'eschatologie,
ce qu'on appelle les grands signes de la fin des temps.
Oui, les signes avant-coureurs. Donc les musulmans seront dans l'obligation de procéder à un calcul astronomique, déjà pour déterminer le début et la fin d'un jour en fonction des heures. Et d'un autre côté, ils vont devoir déterminer le début et la fin de Ramadan. Ce Ramadan tombera peut-être dans la période nuit, parce que si, comme ça, à la volée, nous dirons qu'il y aura 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Donc,
Ils devront quand même jeûner la nuit, quoi. Puisqu'ils devront, comme l'a dit le prophète, faire le calcul, procéder à un calcul, puisque cette journée-là, qui est une journée, on va dire, comme tu l'as dit, eschatologique, donc, on va dire, cataclysmique, elle est un petit peu, qui relève de la fin des temps. Une journée qui, je rappelle, durera un an. C'est-à-dire que la Terre va arrêter de tourner sur elle-même, elle va ralentir.
Un ralentissement terrible,
Voilà. Et donc, de manière à ce que pendant 6 mois, la moitié de la Terre sera plongé dans le noir,
dans
l'obscurité, et l'autre partie restera au soleil pendant 6 mois.
Absolument. Et puis il a dit en arabe
Faqdurullah.
Le même terme revient dans le hadith où il dit jeûner à la vue du croissant de lune de Ramadan et puis ramper le jeûne à la vue, à l'observation du croissant de lune de Shawwal. Et si le temps est couvert, il a dit faqdurullah. Certains savants ont dit faqdurullah ici, ça veut dire calculer, procéder à un calcul.
Alors, il y a une question qui peut être posée par un auditeur, Stéphane Al-Fadl, je m'excuse de vous interrompre. Si on prend le calcul, vous dites qu'il faut considérer, vous êtes en train de nous faire l'éloge depuis tout à l'heure, et de justifier qu'aujourd'hui, il faudrait que nous passions à un nouveau mode de processus de détermination du début et de la fin du Ramadan, qui n'est plus la vision oculaire, mais le calcul. C'est bien ça ce que vous dites?
Pas uniquement. Non. Moi, je suis plutôt pour un avis consensuel. Je sais que nous sommes en train de parler d'un culte. Et dans le domaine cultuel, il faut généralement apaiser les cœurs, il faut les réconforter, les mettre à l'aise, plutôt que de les mettre dans le doute ou dans des choix qu'ils ne peuvent pas admettre. La meilleure solution serait que les astronomes fassent leurs calculs et puis qu'ils nous donnent le meilleur point d'observation sur la Terre. Parce qu'il y a toujours des points où l'on peut observer
mieux qu'ailleurs.
Les croissants de lune, mieux qu'ailleurs.
Non. Mais attendez, une question. D'où c'est le calcul de l'endroit où est-ce qu'il sera mieux vu? C'est bien ça? Et non, oui, pas le calcul de la naissance.
Non, on calcule la naissance.
Mais si on devait prendre que la naissance, le calcul de la naissance, oui. On sait par exemple, hier, cette nuit dernière qui est passée là, la lune est née à 2h31 du matin.
Oui.
D'accord? Donc si on prend le calcul de la naissance, normalement ce matin, on aurait dû jeûner, puisque la lune est née à 2h31 et que c'est avant le Fajr. En France, qui a lieu à 6h moins quelque chose, en Algérie, je ne sais pas à quelle heure, bref, c'est un peu plus tard, à peu près la même heure. Puisque la Lune naît avant le début de la journée et qu'on prend le calcul de la naissance, nous aurions donc dû jeûner aujourd'hui. Voilà, non, c'est une question, c'est pas, point d'interrogation.
Non, c'est l'Ibra bil Maghrib. C'est-à-dire que quand une conjonction se fait, le jeûne commence après la première nuit du Ramadan, commence après le premier crépuscule qui va venir après cette conjonction. Donc vous allez jeûner pratiquement le surlendemain, l'apparition se fait de manière précoce comme c'est le cas. Les calculs astronomiques tels qu'ils ont été faits par des organismes très très sérieux ont tous indiqué, il y a un bon nombre bout de temps, que la conjonction allait se faire le 13. Donc nous sommes dans la logique du jeûne, c'est-à-dire qu'on va jeûner demain, inchallah.
Inchallah. C'est ça. J'espère en tout cas. Allah yajma'na al khair.
Moi je suis donc pour l'avis consensuel. Il va allier science et tradition. Et puis comme le messager de Dieu, la même question s'est posée à l'époque du messager de Dieu. Pourquoi a-t-il dit nous sommes une nation illettrée qui n'utilise ni le calcul, ni l'écriture, ni le calcul? Un mois, c'est soit 29 jours ou bien 30 jours en faisant signe des mains. Bien tout simplement pour beaucoup de savants, l'amru huna, quand il dit soumou li ru'yatih, l'amru laysa lil ijab, wa innama huwa irshad. L'impératif ici n'implique pas une obligation.
C'est pour guider. C'est pour orienter.
Mais une orientation.
Et non pas ordonner.
Oui, non pas ordonner. Parce que si vous lisez le Coran, il vous est dit « Wa idha halaltum fasbadu » après le pèlerinage, une fois désacralisé, allez chasser.
Ça ne veut pas dire que
nous sommes dans l'obligation d'aller chasser. Oui. Et donc, quand il a dit ça, beaucoup de savants ont dit il a juste expliqué à sa communauté que Dieu leur avait choisi le moyen le plus facile. Pour jeûner et pour rompre le jeûne. Et il s'est trouvé à l'époque déjà, au premier temps de l'islam, qu'il y ait des décalages entre Médine et l'Irak, ou bien entre l'Irak et le Chem, parce que les gens n'étaient pas aussi connectés que nous le sommes actuellement. En tout cas, tout ce sujet justement va dans le sens des sujets que nous allons traiter tout au long de ce mois béni de Ramadan. Nous avons choisi de parler de l'ijtihad, l'effort de réflexion. Nous allons, inchallah, parler de l'effort de réflexion déjà à l'époque même de la révélation, alors que le prophète Slaïs était vivant, pendant l'époque des quatre califes, ou même des cinq califes éclairés, parce que nous nous y inclurons Omar ibn Abdelaziz.
Donc si j'ai bien compris, c'est surtout parler de la révélation, de la réflexion au moment même de la révélation.
au moment même de, vous savez, nous allons parler de ça au moment de, à l'époque même de la révélation, pour démontrer que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ouvert à l'effort de réflexion, à l'ijtihad. Il y encourageait même ses compagnons. Bien sûr, la chose se fait dans un cadre qui est quand même bien balisé, bien cadré. C'est pas n'importe qui va faire un effort de réflexion et pendre n'importe quoi.
Alors, Kamel, là, on arrive au bout du temps, mais le rendez-vous, oui, pour ceux qui nous écoutent, c'est tous les soirs, 20h, pendant tous les
20
jours.
20h heures françaises. Voilà. C'est ça.
Puisqu'il est 19h17, heure d'Alger. Merci, Kamel. Allez.
Je vous en prie, à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Et puisse Dieu agréer nos œuvres, Inch'Allah. Salamu alaikum.
Voilà. Et dans un instant, vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au standard au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Ramadan & Co et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. On a Nabil qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue Nabil. Une question à l'imam s'il vous plaît, parce qu'il y a du monde standard. Nabil.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum assalam, akhi Nabil. Marhaban. On t'écoute, ta question, vas-y. Bismillah.
Alors ma question c'est pour ma femme qui est enceinte de 3 mois. Est-ce qu'elle doit faire le Ramadan ou...
Eh bien, écoute, je réponds à ta question comme je répondrai à plein d'autres personnes pour le même cas de figure. Seul le médecin est habilité à définir si une femme enceinte est en mesure de jeûner ou non. Donc, si le médecin dit non parce que son état de santé ne le permet pas, et il faut qu'il le justifie, hein, il argumente, hein, le médecin doit argumenter. « Madame, voilà ce que vous risquez, voilà, voilà, voilà. » Mais bon, 3 mois en général, elle est plutôt, c'est plutôt oui. Mais je ne peux pas, moi, m'avancer de manière catégorique en disant « Oui, ta femme peut jeûner la tienne. » J'en sais rien, c'est le médecin qui détermine. Parce qu'il y a des femmes qui, au début de leur grossesse, ont des vomissements, des nausées, tout ça, c'est compliqué. Alors, je rappelle que le vomissement involontaire n'invalide pas le jeûne. Il reste valide, le jeûne, pour celui qui vomit. Bien sûr, involontairement. C'est le vomi volontaire, al-qay al-amd, c'est celui qui annule le jeûne. Mais al-qay al-ghayr muta'ammid, celui qui n'est pas volontaire, n'invalide pas le jeûne. Voilà, Khil Karim. J'espère avoir répondu à ta question. Marhaba bik, ahlan.
Merci, Nabil. Bon Ramadan.
Bon Ramadan sur Beurre FM, Inch'Allah, tous les soirs, de 19h jusqu'à l'Adhan.
Mais non, c'est toute la journée le Ramadan.
Ouais, mais bon, avec moi, je parlais.
Oui, avec vous. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque on vous retrouve à partir de 22h sur les réseaux. Abdel, vous êtes le bienvenu.
Abdel, comment?
Abdel.
Allo, salam alaikum. Abdel, vous appelez où, Abdel?
De Pomponne.
De?
De Pomponne. Pomponne.
Tu connais ce village? Pomponne, d'accord, je ne connais pas. C'est où?
Oui,
c'est à côté de...
C'est à côté de Lagny, Torcy.
Ah oui, dans le 77. D'accord, oui, ok, je vois.
Voilà.
Marhaba bik akhi.
Yartek Sahar, merci. Donc voilà, moi j'ai une question, c'est par rapport au Ramadan. Je voulais savoir si par exemple quelqu'un qui a mangé, qui a pas fait le Ramadan par exemple, sans aucune
raison,
comment il doit faire pour rattraper les jours qu'il a pas fait, les jours où il a pas fait le Ramadan?
Eh ben, il les rattrape courant de l'année. C'est tout, il les rattrape. Il a l'obligation de rattraper ce qu'on appelle qada, siyam shahr Ramadan. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il a en plus de jeûner l'obligation d'accomplir d'ajouter à cela une expiation, une kafara, comme on dit en arabe? Certains savants vont dire oui, il lui faut l'expiation, qui est l'équivalent de 60 repas qu'il va donner à un pauvre, ou le fait de jeûner 60 jours successivement. Mais bon, le mieux, c'est de donner aux pauvres les 60 repas, donc l'équivalent de 300 euros pour tout le mois, bien sûr. C'est pas chaque jour 300 euros, ça fait beaucoup, sinon. Imagine 300 multiplié par 30 jours, ça fait beaucoup. Donc, pour un mois, il va payer une fois la kafara, et moi, je la conseille. Je la conseille. Mais d'autres savants ne l'obligent pas, surtout s'il n'y a pas eu de consommation intime, de relation intime. puisqu'il y a un consensus sur le fait que s'il y a eu relation intime volontairement et en connaissance de cause qu'il est en plein journée du Ramadan, à partir de l'Fajr jusqu'au coucher du soleil, lui, comme un sot, comme un idiot, il consomme une relation en pleine journée du Ramadan, eh bien, il aura l'obligation de rattraper ce jour et d'assumer l'expiation qu'on appelle la grande kafara, pour celui de, voilà. Ça, il y a unanimité concernant le fait de consommer des relations. Après, s'il a que mangé, c'est une autre.
Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est dans le Coran ou non? Est-ce que c'est dans le Coran?
La kafara?
La kafara.
La kafara, c'est dans le hadith authentique de Bukhari et de Muslim.
Ah, non. D'accord. Mm-hmm. Parce que dans les hadiths, il y a des hadiths qui sont pas fiables, je pense. Monsieur.
Tout à fait. Bien sûr, vous avez raison. Mais en ce qui concerne cette kafara, elle est authentique. Il n'y a pas de divergence sur la question. Donc, je répète, écoute, je vais te dire un truc. Pour moi, celui qui a rompu le jeûne du Ramadan, sans raison, pour moi, il n'y a pas besoin ni de kafar, ni de tout, il est déjà puni par le fait de ne pas être récompensé par le jeûne qu'il aura négligé. Il y a toute l'immense récompense que tous les jeûneurs ont obtenue. Lui, il en est privé. Cela suffit par lui-même déjà comme châtiment et comme sanction.
Voilà, moi, ce que je voulais savoir exactement, c'est pas dans le Coran, c'est pas dit, il n'y a pas une sourate.
Bah, regarde, on ne suit pas que le Coran, on suit la sunna. Parce que ce qui nous explique le Coran, c'est aussi la sunna.
Là. Hein. Et Abdel, l'imam, vous a répondu sur ce point.
Voilà. On n'est pas des coranistes, hein. On est des musulmans qui suivons le Coran et la sunna. La sunna qui vient expliquer le Coran. Puisque le Coran nous dit lui-même de suivre la sunna, il dit « Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul », obéissez à Dieu et à son prophète.
Merci voilà. Abdel pour votre question. Mohamed est avec nous. Mohamed, vous êtes le bienvenu.
Allô ?
Oui, Mohamed, on vous écoute. Avec.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Akhi Mohamed.
Je peux parler en arabe, s'il vous plaît.
Oui, mais bon, vas-y, il faudra traduire puisque les auditeurs ont besoin d'une traduction. Là, on y va.
En fait, je vous appelle pour une question.
Ya Allah, bismillah.
Parce que j'ai une maladie chronique. Et du coup, la question, c'est pour savoir si je vis le ramadan ou je ne vis pas le ramadan.
Eh ben, je répète la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Puisque ta maladie est chronique, est-ce que cette maladie t'empêche de jeûner ou pas? C'est le médecin qui définit. C'est ma nerf. Le médecin, c'est lui qui dit. S'il te dit tu peux pas jeûner parce qu'il faut que tu bois beaucoup et que si tu ne bois pas, tu risques de mettre en péril ta santé voire même ta vie, tu n'as pas le droit de jeûner parce que tu n'as pas le droit de dégrader ta santé ou risquer ta vie. D'accord? On n'a pas le droit de se suicider ou de risquer sa vie en islam. Dieu dans le Coran, il dit wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Dieu est miséricordieux envers vous, n'aime pas que vous vous suicidiez. Donc faut pas se suicider, se mettre dans une situation périlleuse. Donc si le médecin te dit monsieur, vous risquez gros, il te présente des risques avérés, pas supposés hein, pas oui, peut-être que non. Il faut que ça soit des risques avérés, dit monsieur, en ne buvant pas, voilà ce que vous risquez. Je suis pas médecin
pour dire. Maintenant, je rentre à l'hôpital.
Eh ben, khlas, tu n'es pas concerné par le jeûne, tu verses la fidya. D'accord?
C'est 300 euros par mois, c'est ça?
Non, pas 300, 150 euros, c'est l'équivalent de 5 euros pour chaque jour non jeûné. Ou là, si tu sais comment t'assurer d'offrir 150 repas, 30 repas à un pauvre pendant ce mois du Ramadan, soit à plusieurs pauvres, mais moi-même, l'équivalent de 30 repas que tu vas verser, pour chaque jour non jeûné, un repas, donc ça fait 30 jours égale 30 repas, eh bien c'est bon, tu n'auras pas à rattraper en plus après le ramadan ni rien, c'est bon. Toi, ton jeûne, c'est la fidya. Elle est remplacée par la fidya.
D'accord.
Fiqil barakah.
Merci. Mohamed. Bon ramadan, Mohamed.
Merci, bon ramadan.
Wa alaykoum assalam.
Imam Abdelali, nous accueillons Rachida. Rachida, vous êtes la bienvenue.
Oui, marhaba bik, Rachida.
Oui, bonsoir, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Bonsoir Philippe. Je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour le ramadan et même pour les jumu'a et tout ce qu'on apprend chaque jour. Ma question c'était, j'ai mon fils qui tient un restaurant de, comment on appelle ça, un restaurant de restauration rapide. Il sert à manger, on va dire.
Mm-hmm. D'accord.
Et il se renseigne et... On lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir pendant le ramadan.
N'importe quoi. Je rappelle que le ramadan, le fait de jeûner...
Attendez, il n'a pas le droit d'ouvrir d'un point de vue religieux.
Voilà, c'est ça. Il pense que c'est haram que c'est d'ouvrir et de les manger aux gens.
Voilà, pour lui, c'était lui. Moi, je jeûne et je donne à manger aux autres.
Ouais. Et la femme enceinte, et la femme qui a ses menstrues, et le voyageur, et les enfants, et les personnes âgées, et les malades, et ouhadoul, mais y'a clouche, mange pas. Et les non-musulmans. Bah ouais, tous ces c'est des millions de gens, tout ça. Rien que déjà, parmi les musulmans, il y a une grande partie qui ne sont pas concernés par le jeûne, à qui il a le droit de leur donner de la nourriture. Et même le kafir, laïsa mukallab bi furu'i shari'a, il n'est pas concerné par les détails de la religion, parce qu'il n'adhère pas aux principes de la religion et à la foi. Donc ils ne sont pas concernés par les détails, c'est-à-dire par la pratique de la prière, le jeûne, etc. Puisque aslan huwa mush muslim, il n'est pas musulman. Donc il a le droit de donner de la nourriture à quelqu'un qui n'est pas concerné. D'accord? Oui, et je rappelle, et je répète que c'est pas ton problème. Imagine un gars, il achète un sandwich, et il a envie de l'acheter, le garder dans, chez lui. Oui. Jusqu'au soir. Et il le garde jusqu'au soir, il le fait chauffer dans son four micro-ondes, et il le mange au moment de la rupture. Il est où le problème?
Mais on peut pas savoir ce qu'il va en faire quand il prend son sandwich.
Bah voilà, c'est pas mon problème, alors.
Et il le mange de suite.
C'est comme moi, je vois un couteau. Et le gars, c'est un assassin. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'il est assassin? Moi, je vois un couteau, il est censé couper la viande et les légumes avec, pas aller tuer les gens avec. Mmh. Moi, je suis pas responsable de ce qu'il fait avec la chose que je lui ai vendue. Je suis pas complice de son meurtre. S'il a tué un couteau, il a tué avec un couteau que je lui ai vendu.
Donc,
on est bien d'accord.
La réponse,
c'est qu'il a le droit de vendre, d'ouvrir son magasin et de vendre à qui il veut. Et toute personne, de toute façon, il peut pas faire de discrimination et il doit vendre à toutes les personnes qui viennent lui acheter. Après, celui qui a envie de manger sur place la journée, c'est son problème.
Normalement, tu ne dois pas.
Ah, kalam fardi, urti. C'est pas logique. Parce que je vous ai donné des arguments logiques. Je pense que c'est clair. On est bien d'accord que tous les imams.
Madame, on est bien d'accord
que tous les imams sont d'accord que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont leur menstrue ne jeûnent pas. Les enfants ne jeûnent pas.
Non.
Les personnes âgées ne jeûnent pas, les malades ne jeûnent pas, les non-musulmans ne jeûnent. Ces gens-là ne sont pas concernés par le jeûne. Donc pourquoi je pourrais pas leur vendre?
D'accord. Okay.
Voilà, on est d'accord.
Donc c'est la réponse de l'imam.
Donc oui, je peux vendre de la nourriture, quelle qu'elle soit, pendant la journée du Ramadan, que ce soit un restaurant ou dans un magasin.
Voilà,
d'accord.
Rachida.
Bah lui, il était vraiment gêné par rapport à ça. Bon, maintenant, c'est clair.
Dites-lui de travailler, faut bosser, mon frère.
D'accord, bah oui, il en a envie.
Pour gagner sa vie, hein. Bah, c'est pas parce que c'est le Ramadan, ça y est, tout s'arrête, hein.
Et puis, on bosse. Et puis, bon Ramadan, Rachida.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci, bonne soirée, Rachida. Alors, on vous donne rendez-vous dès demain, 19h, pour Ramadan Co, Imam Abdelali.
Inch'Allah, marhababik. Je voulais faire une petite dédicace qu'on me l'a demandé à le fils de mon neveu. Mon neveu s'appelle Ahmed, il a un fils qui s'appelle El Joud. Je voulais faire une petite dédicace, lui faire un gros bisou, un gros câlin. Allah yassalhu rabbi et kabur al-din, inshallah al-islam. Allah j'alim min dhurriya salihah. Et bien sûr à tous mes autres petits-neveux et neveux et familles et voilà, et frères et sœurs, toute la famille. Voilà, famille Mamoun. Voilà.
Ah bah ça fait du monde, hein.
Et Mihiaoui aussi.
Old Mamoun.
Ah oui, big family.
Bien.
So much.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez sur Beurre FM. Demain, je vous rappelle que Gad Elmaleh est l'invité de la matinale autour de Kim et de Waïd, 8h, 9h. Et bien sûr, vous retrouvez Kim, Mona et Waïd dès 6h du matin. Merci d'avoir été avec nous. On est très, très heureux de passer tout ce mois de Ramadan avec vous. Et par avance, bon Ramadan à tous.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.